Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people duck.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Et bienvenue à nouveau, une belle semaine de Manches sur votre émission dédiée à la danse où nous ne faisons pas que jouer, figurer l'émotion, mais la vivre intensément. Et aujourd'hui, avec une invitée succulente, une invitée montpellierenne qui va se présenter elle-même.
Bonjour, je suis Patricia Loubière et je suis extrêmement ravie d'être là aujourd'hui. Et je suis directrice artistique et chorégraphe de la compagnie Mosaïque, basée à Montpellier.
Mosaïque est une compagnie de danse et spécialisée dans la danse inclusive, si chère ici dans cette émission, qui intervient sur les territoires de la métropole, de l'Hérault et de l'Occitanie, à travers des actions très précises qu'on verra tout à l'heure. Alors, Patricia, elle vient d'où, Patricia?
Alors, Patricia, elle vient de loin et en même temps de si proche. Elle vient d'où, à quel niveau par rapport à...
On avait parlé de ton milieu rural.
Ok, là où c'est... je suis née, d'accord. Donc je suis née dans un petit village aveyronnais, à 20 minutes de Rodez. Voilà, où je suis restée, où j'ai eu une enfance très, très paisible, au milieu d'éléments naturels, avec un lien fort avec la nature, et jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, je suis venue sur Montpellier pour mes études. Et très rapidement, je suis partie à Paris, donc justement par rapport à la danse.
D'accord, parce qu'on en avait parlé que quand tu étais enfant, tu avais plein d'espace et des temps pour jouer. Et qu'il y avait aussi il n'y avait pas des parcours d'école de danse dans ta famille. Non, et ça, je trouve que c'est important aussi de rappeler aux auditeurs, auditrices, que... les personnes qui aujourd'hui font le visage de la danse, il y a eu un temps où c'était pas exactement le chemin classique qu'on nous fait toujours croire.
C'est vrai que j'ai pas eu un parcours, traditionnel qu'on peut croiser souvent dans la danse, et encore que chacun a son parcours singulier, je pense. Mais en tout cas, nous, vivant à la campagne et on grandit à la campagne, il n'y avait pas vraiment d'activité. On n'allait pas au cours d'équitation, au cours de judo, au cours de tennis, au cours de danse. Ça n'existait pas pour les enfants du village. Mm-hmm. On était vraiment plus... on était tellement heureux de jouer à l'extérieur. Et ça ne faisait pas partie des mentalités dans les campagnes. C'était plutôt réservé dans les villes. Et puis il y avait l'accessibilité aussi pour aller ne serait-ce qu'à 20 km. C'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. On faisait pas 20 km aussi facilement, non, je trouve.
Ça va.
En tout cas, surtout pour des activités pour des enfants. Donc j'ai dû attendre l'âge de 12 ans, je crois, où là j'ai vraiment tapé des pieds fortement, embêté mes parents pour que vraiment ils m'amènent à un cours de danse. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très fort qui m'appelait et je lâchais pas le morceau. Donc à un moment donné, ils ont un petit peu été obligés de m'amener chaque semaine au cours de danse, et me voyant tellement heureuse dans cette discipline, ils m'ont accompagnée.
Donc, c'est un plaisir de voir comment elle a bataillé, comment elle a fait son combat, et même contre sa propre famille, pour devoir vraiment vivre de ce qu'elle voulait vraiment faire, Patricia.
Alors, c'était pas vraiment un combat, mais en tout cas, c'était pas quelque chose de naturel pour eux, parce que tout simplement, ils ne l'avaient pas vécu, eux, enfants ou adolescents.
Et donc, tes débuts dans la danse, ils commencent avec quelles influences, avec quelles...
On va dire que la télé, quand même, a été très, très présente pendant l'enfance et l'adolescence, et notamment... il y a eu plusieurs influences. Évidemment, il y avait l'influence des premiers clips. On peut parler déjà des clips de Michael Jackson, où j'étais complètement fascinée par cette danse que je trouvais complètement mystérieuse. C'était déjà aussi les influences hip-hop, qui en Aveyron, je le rappelle, n'existaient absolument pas, même encore 10 ans après cette période-là. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose que je trouvais magique. Puis il y a eu tous les films qui sont arrivés à cette époque-là. Donc il y en a eu un paquet dans les années 80 qui m'ont aussi influencée. Il y avait aussi l'émission HIP, HOP à l'époque sur, je crois que c'était TF1 si je ne me trompe pas. C'était tous les dimanches matins. Et là aussi, c'était on alternait parce que ma mère voulait regarder une émission qui s'appelait, je crois, Véronique et Davina, qui était une émission de gym. Pas du tout de gym. C'était aussi dans le corps. Hein. C'était une émission de gym que tout le monde regardait et on pouvait, en face de l'écran, pratiquer aussi tout ce qu'elle proposait. Mais c'était vraiment pas du tout de la danse. C'était vraiment de la gym en musique. Ouais. Et en même temps, il me semble que c'était en même temps, il y avait cette émission HIP, HOP. Je trouvais ça hyper curieux, c'était animé par Sidney, qui est quand même une grande figure de la culture hip-hop en France, où il y avait ces danseurs au sol, ces danseurs qui faisaient des ondulations, enfin, je trouvais ça aussi magique, mais je ne pensais pas du tout y avoir accès, parce qu'en tout cas, en Aveyron, on n'en parlait pas de ce style de danse, donc c'est plus le côté moderne jazz, on va dire, qui m'a attiré en premier. Le contemporain, je ne savais pas trop ce que c'était. Je pouvais voir aussi certains clips avec des danseuses dans certains clips de... Alors, j'ai plus les noms en tête. Pardon, j'ai complètement oublié. Mais il y a eu 2-3 clips avec des danseuses contemporaines. J'avais pas conscience que c'était de la danse contemporaine. Je voyais que c'était un petit peu différent.
Okay.
Mais en tout cas, moi, je me moquais un petit peu de savoir quel était le nom de la stylistique.
Oui, mais parce qu'on n'a pas appris à rejeter les styles des autres.
Hein, non, et puis parce que surtout, moi, ce qui me plaisait, c'était leur énergie. Que ce soit du contemporain, du hip-hop, du jazz, moi, c'était cette énergie qui me parlait.
Cette énergie, oui. Je mélange dans ma tête des choses, mais on va y arriver. Et donc, c'est ton père qui t'a fait faire ta première barre de... Non ? Il y a une histoire de...
Alors oui, j'avais demandé à mon père de m'installer dans la chambre une barre pour pouvoir fermer mes exercices d'étirement, etc. Et en fait, il a trouvé une barre de rideau en bois et me l'a fixée dans ma chambre. Mais j'étais tellement heureuse d'avoir cette barre et de pouvoir travailler dans ma chambre.
Mais je trouve ça chouette quand la famille se tient malgré eux, je sais pas, mais c'est quand même intéressant.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts.
Et donc, c'est à 11 ans que tu commences un cours de danse, non ?
Oui, 11-12 ans, je ne sais plus exactement.
11, 12 ans. Et c'est un cours de hip-hop alors ?
Non, pas du tout. En Aveyron, ça n'existait pas du tout, le hip-hop.
Ah, pardon.
Ça arrivait à peine à Paris avec HIP, HOP. Donc, non, en Aveyron, il n'y avait absolument pas... Non, c'était un cours de modern jazz.
Modern jazz, ok.
Alors, je voudrais quand même dire, parce que à l'école et en Aveyron, on peut dire, il ne faut quand même pas que je mente, j'ai commencé avec la danse traditionnelle, avec le folklore aveyronnais.
C'est trop drôle parce qu'on en a parlé avec quelqu'un d'autre qui a aussi eu un rapport très dans le début avec la danse traditionnelle et je trouve ça c'est très fort parce qu'on oublie souvent la puissance de ces danses qui sont très communautaires, mais qui n'y a pas de mais, quoi. Je dis mais il n'y a pas de mais.
Après, c'est vrai que la musique me parlait beaucoup moins, forcément.
Oui, ça nous touche peut-être au niveau générationnel un peu moins. Mais ce que je trouve fort des danses traditionnelles, c'est qu'elles sont toujours là, quelque part, de façon très minorisée, très, très exclue. Mais qui amène quand même quelque chose de très fort et très magique, qui est caché dans leur tradition. Très bien, et donc après, on a 12 ans d'interprète, c'est ça ?
Alors, ça c'est bien après, puisqu'en fait, d'abord donc, j'ai continué la danse à Rodez, ensuite après mon bac, je suis venue donc à Montpellier, donc là j'ai continué à danser, à prendre des ateliers, à prendre des cours, à travailler la technique, mais je continuais tous les week-ends à faire les allers-retours à Rodez parce que j'étais très attachée à l'école de danse où j'étais à l'époque, même si j'ai toujours fait plein d'écoles de danse. J'ai jamais voulu appartenir à une seule école. C'était important justement d'aller voir des styles différents. J'avais vraiment une curiosité d'essayer plein de styles, plein de profs et pas une seule appartenir à une seule école. Ensuite, je suis venue sur Montpellier et assez rapidement, je me suis dit mais il faut que je parte à Paris. Il faut que j'aille vraiment, comme on dit à l'époque, à la capitale.
À la capitale.
Pour vraiment aller, aller découvrir tout ce, ce... approfondir mes connaissances, rencontrer, voir des spectacles, enfin me nourrir. Il y avait cette soif qui était, même si Montpellier était déjà très ouvert au niveau culture, mais au niveau de la danse, mais voilà, je suis partie à Paris. Ça a été un petit peu compliqué, l'arrivée à Paris, mais...
C'est toujours compliqué d'arriver quelque part.
Voilà.
Nouveau, nouvelle.
Mais ça a été vraiment une période incroyable. Donc, je suis restée 4-5 ans. Parce que là, j'ai rencontré... Donc, je prenais beaucoup de cours. Jazz contemporain, classique.
T'as pris des classiques
avant, oui, okay. Classique, tout à fait. Je m'en souviens très bien. C'était pas évident parce que le corps... par exemple, vous démarrez par un cours de classique le matin. Ensuite, vous passez le cours d'après à un cours hip-hop. Donc, du coup, c'est pas du tout les mêmes ressentis, les mêmes codes, la même... aussi dans le corps, il y a cette verticalité, et puis d'un coup dans le hip-hop, on va chercher dans le sol, alors que dans l'autre, c'est beaucoup plus aller chercher le haut. Enfin, il y a vraiment
l'élévation.
L'élévation, le rapport à la terre, enfin, le rapport à plein de choses. Mais je trouvais ça hyper intéressant de comment on arrive à switcher, même si je pense qu'on a tous quelque chose qui est un peu plus inné. Moi, je sais que je suis beaucoup plus dans la terre.
Dans la terre.
C'est
évident. Mais c'est propre aux danses urbaines. C'est quelque chose, non?
Ben, les danses urbaines, tout à fait, viennent aussi de la culture de l'afro, des claquettes, des danses tribales. Enfin, il y a plein de choses.
Oui, il y a beaucoup de traditions africaines qui se sont transpirées comme ça dans l'histoire. On en avait parlé dans un numéro de Cahiers des danses qui travaille sur le jeu. Des Jeux Olympiques, et là ils ont fait un petit article, un grand article sur le hip-hop, quand le hip-hop rentre dans les Jeux Olympiques, et c'est là où j'ai appris que, évidemment, il y a toute une tradition afro-américaine qui a passé comme ça le fil de l'histoire un peu en cachette, et qui a transformé énormément de corps.
Oui, la capoeira aussi, enfin toutes ces...
Et toutes ces influences qui ne sont pas écrites dans l'histoire officielle, mais qui sont dans l'histoire réelle
tout
des
à
corps.
Fait.
Et donc, Mosaïque et le travail, quelque chose qui m'a beaucoup étonné, c'est la rencontre entre la danse urbaine et la danse inclusive avec toute la composante du handicap. Non, c'est deux composantes pour moi qui sont assez merveilleusement mises ensemble dans Mosaïque.
En tout cas, à l'origine. Donc j'ai fondé Mosaïque avec une amie, donc en 99, et j'étais vraiment imprégnée de toute cette culture hip-hop, culture urbaine. L'inclusion est venue, enfin l'inclusion. Au départ, on réfléchissait pas avec ces termes-là. C'était surtout déjà le choix du nom de Mosaïque. C'était aussi important de cette palette de diversité. Déjà, le choix du mot mosaïque pour nous était important. Le croisement de plein de cultures, de plein de personnes différentes, le croisement entre les arts était aussi important. Entre les gens, entre les disciplines. Et au tout début, c'était sur les cultures urbaines. Et en fait, c'est venu aussi parce qu'en fait, en 2004, donc, c'est devenu une évidence de proposer un projet avec le CESDA de Montpellier, qui est l'école, le centre d'éducation spécialisée pour les déficients auditifs.
Ok.
Et donc, on a monté un premier projet autour de la culture sourde. Et comment, finalement, c'était évident de proposer un projet où la danse est finalement la passerelle, le pont, le corps, le mouvement entre les entendants et la culture sourde et les sourds.
Ouais. Avec ces mots si précieux, on va faire une petite pause musicale avec l'équipe des Divergences et on revient. Let you on, I'd love to know. Grâce à Little Dragon, un groupe suédois formé en 1996 avec la chanson Twice qui nous a bien recommandé Patricia, nous revenons ici dans cet espace d'altérité, dans cet espace où nous aimons parler de la danse, de la faire bouger dans tous les sens et à partir de toutes les pratiques. Donc nous revenons avec ces diplômés d'État qui a obtenu son... C'est ça, hein, c'est un diplômé.
C'est un
DE.
C'est un diplôme, voilà, diplôme un DE, d'état. Diplôme d'état de professeur
de danse.
Que
je ne me trompe pas avec les. Et donc tu l'as obtenu.
Alors je l'ai obtenu assez tard puisque je l'ai passé. J'avais 32 ans okay. À Montpellier, au Crêpes de Montpellier, qui est assez tard
oui, quand
finalement.
Je me souviens quand tu disais, qu'est-ce que vous faites ici C'est ça que tu me disais au Crêpes.
Oui, c'était. Je crois que j'étais la plus âgée quand j'ai passé mon diplôme. Mais
non, mais pas par rapport à l'âge, mais par rapport à la discipline, parce que tu veniais de.
Alors moi, c'est vrai que là, on est parti. Donc j'étais sur Paris, où je me suis formée aussi beaucoup en hip-hop aussi. Je suis revenue sur Montpellier, la création de Mosaïque. Et puis petit à petit, voilà, je réfléchissais aussi à l'avenir. Et forcément, dans la danse hip-hop, il y a aussi beaucoup de risques de blessures.
Oui.
Et petit à petit, avec un problème au ménisque, une première opération. Et comment j'envisageais aussi la suite avec un corps qui allait à un moment donné vieillir, comme tous les corps. En me disant aussi que c'était important d'avoir un diplôme d'État. Aussi pour assurer une qualité pédagogique, une qualité d'enseignement. Mais en hip-hop, cela n'existait pas. Enfin, je dis mais, en tout cas, voilà, ça, c'était ainsi. Et moi, comme je travaillais beaucoup, pendant 12 ans, j'étais interprète dans différentes compagnies, hip-hop contemporain. Donc c'était vraiment, pour moi, je me sentais naturellement proche aussi du contemporain. Mm-hmm. Mais il y a beaucoup de contemporains très différents. Et quand j'ai voulu... postuler au Crêpes de Montpellier, me présenter à l'audition en contemporain, on m'a orientée plutôt sur le jazz. Disons que je n'avais pas l'énergie contemporaine, dans le sens où mon énergie était trop explosive, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas trop bien compris.
Okay.
Oui. Donc, en tout cas, il y avait un monsieur, un grand monsieur, que je remercie vraiment, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, mais qui a eu aussi un rôle très, très important. C'est monsieur Thierry Boyer.
Okay.
Qui était enseignant au Crêpes de Montpellier, qui gérait la section jazz, modern jazz, et qui m'a accueilli sur cette formation DE, et qui avait cette ouverture sur justement, j'avais une couleur différente. Oui, je venais pas on va dire, je sortais pas d'un conservatoire ou d'une école où j'ai fait 15 ans de classique. Donc peut-être ma jambe, elle montait pas aussi haut que les autres danseuses qui étaient aussi beaucoup plus jeunes que moi.
Oui, et qui avaient entraîné peut-être un style depuis toute leur vie, quoi.
Oui, mais je pense que ce que Thierry aussi appréciait chez moi, c'était déjà cette maturité, parce que j'avais beaucoup dansé sur scène. Et puis j'amenais aussi une couleur différente. Et puis vraiment, il a eu cette ouverture d'esprit. Je pense qu'il était très fin, très intelligent. Il pouvait être très dur aussi, hein, parfois.
Ça va avec l'intelligence, je pense.
Sûrement. En tout cas, il était déjà convaincu qu'effectivement, le hip-hop, ce n'était pas qu'une mode. Ça allait être aussi quelque chose qui allait influencer le reste. Et aujourd'hui, plus de 20 ans après, je trouve ça incroyable de voir les danseurs aujourd'hui. Oui. Quand je vois la jeune génération, nous avant, on voyait, ça c'est un danseur classique qui essaye de faire du hip-hop.
Là,
c'est un danseur hip-hop qui essaye de faire du modern jazz. Enfin, et aujourd'hui, ça me fascine de voir la jeune génération de danseurs, parce qu'en fait, ils savent tout faire, ils sont hybrides.
C'est des monstres.
C'est magnifique.
Oui.
C'est époustouflant, je trouve.
Je suis admiratif sur TikTok ou sur d'autres réseaux comme YouTube aussi. Quand on regarde ce qu'ils sont capables de faire, comment ils ont incorporé des choses, et ils sont mixés, ils sont mélangés, ils sont créés, je prends du plaisir à savoir qu'on a transformé quand même quelque part. Vous avez transformé le corps de la jeunesse qui ne se pose pas les mêmes questions qu'il y a 30 ans. Voilà.
Tout à fait.
Ça, c'est très important. Donc, nous parlons de cette identité des mosaïques qui est toujours dans la danse inclusive. Et tu vas peut-être nous parler de... tu nous avais parlé de ces débuts avec les personnes en déficience auditive.
Oui, la culture sourde.
C'est ça, c'est le premier projet qui t'a permis de...
Avec une création qui s'appelait Signe à l'époque.
Signe.
Voilà.
Très bien. Tu vas nous parler des actions aussi, non ? Des actions qui sont très importantes pour Mosaïque, ce qu'elle propose au long de l'année.
Alors, peut-être c'est intéressant. Alors, je donnais une formation ce week-end et donc on aborde ce qu'est la danse inclusive.
Pour les auditeurs, sachez que ce week-end, ça ne va pas être le même week-end que pour nous.
Ah oui, pardon. et de réfléchir sur... tout d'abord, peut-être... définir ce que c'est la danse inclusive.
D'accord, si, c'est
bien. Parce que peut-être ça parle à certains et pas à d'autres. En fait, déjà, je pense important de dire que la danse inclusive, ce n'est pas une discipline comme la danse classique, la danse contemporaine, la danse hip-hop. C'est une technique. C'est comment j'adapte la danse à un public.
Voilà.
Et le plus possible en mixité. C'est-à-dire avec, comme en milieu ordinaire, avec une diversité de corps différents, et pas proposer ces ateliers de danse uniquement pour des personnes en situation de handicap. Mais avec l'ouverture, ça c'est important, quand c'est possible de le faire, c'est pas toujours possible, mais de proposer aussi cette mixité entre personnes avec diversité, particularité ou sans. Enfin, même si je trouve ça bête, parce qu'on a tous des particularités.
On a tous une jambe qui travaille plus que l'autre, un truc comme ça.
Mais voilà, c'était pour essayer de proposer d'autres mots que le mot handicap, parce que je trouve que ce mot, en France, il porte beaucoup de représentations plutôt négatives.
Mmh.
Et je trouve ça intéressant de réfléchir aussi à d'autres termes, une autre sémantique,
pour
repenser ce...
Que le mot ne nous blesse pas, mais qui nous représente.
Voilà. Par exemple, en Espagne, ils disent « diversidad fonctionnelle ».
Fonctionnelle, oui.
Et je trouve ça juste merveilleux, une diversité
aussi,
fonctionnelle. Voilà. Alors, pour expliquer vraiment que la danse inclusive, déjà, ce n'est pas un mot inclusif qui nous plaît forcément. Mais aujourd'hui, danse inclusive s'oppose aussi à quelque chose qui est de fait présent dans notre société en France, qui est une danse qui peut-être serait un peu plus exclusive, qui peut-être exclurait, en tout cas au niveau de...
Peut-être, des possibilités
des
musculaires.
Ne serait-ce que d'accéder à un atelier de danse, à un cours de danse.
Oui.
Aujourd'hui, ce mot inclusif, il ne nous convient Pas forcément. Mmh. Nous, on aimerait juste appeler ça de la danse. Mmh. Ou effectivement, de la danse contemporaine ou de la danse, etc.
Hip-hop.
Ou hip-hop. Mais là où on en est, je pense, aujourd'hui en France, on est encore un peu obligé de mettre ce terme.
Oui.
Mais pour vraiment spécifier que ces ateliers-là sont ouverts à tous, ou sont ouverts à ces publics qui sont peut-être nommés lors de, comment on présente l'atelier. Donc ça, c'est important, parce que souvent aussi, c'est pour les personnes en situation de handicap, elles pensent que ce n'est pas accessible. Elles ne vont même pas, au départ, penser à pratiquer la danse, parce que pour elles, de fait, n'est pas accessible.
Le système ne donne jamais voilà. la possibilité.
C'est ça. C'est pour ça que quand on a commencé, il y a une quinzaine d'années, à proposer des ateliers en milieu ordinaire, c'est-à-dire dans des écoles de danse, enfin dans des salles de danse qu'on louait oui. sur Montpellier, on avait très très peu de personnes, puisqu'en fait ça n'existait pas sur Montpellier. Mmh. Donc le premier atelier qu'on a mis en place autour du handicap moteur, pour des personnes avec un handicap moteur, la première année j'avais 4 élèves,
oui.
2 en situation de handicap moteur, et 2 danseurs sans handicap, puisque de suite, je voulais proposer la mixité.
Oui.
Et donc, je remercie d'ailleurs Nathan,
oui.
qui se reconnaîtra, on en parlera tout à l'heure, qui est danseur aujourd'hui dans la compagnie. Mais à l'époque, Nathan, qui est un jeune danseur en situation de handicap moteur, avait 13 ans. Il était tout jeune.
Oui.
Voilà, avec Sandrine, que je remercie également, qui elle est une autre danseuse en fauteuil également, et qui avait déjà, je crois, 34 ans. Et 2 danseurs sans handicap, qui étaient Santiago, qui est un danseur hip-hop incroyable, chorégraphe, hein, qui est maintenant sur Paris, et Lucille, qui était danseuse dans mes cours en modern jazz, qui faisait des études de kiné. Donc c'était, y avait que 4 personnes.
Et 4.
Au fur et à mesure, d'année en année, ça a pris de l'ampleur. Un atelier avec 10-12 personnes. C'est vraiment le maximum, on ne peut pas aller au-delà. Et un deuxième, etc.
Maintenant que nous savons, est-ce que c'est un peu plus précisément, est-ce que c'est cette définition des danses inclusives? Parlez-nous des actions.
Des actions.
Trois actions.
Oui, les actions.
Parce qu'il nous reste que 2 minutes.
Oh, pardon, oui. Alors, les actions, ce dont on parle, donc la transmission. Donc,
okay.
La transmission, c'est un des premiers volets, c'est-à-dire proposer des ateliers, des cours, des stages, pour permettre à ces publics-là d'accéder à une pratique chorégraphique,
physique.
À une pratique de la danse.
De la danse.
En sécurité, ça c'est vraiment un point hyper important, la sécurité. C'est pour ça que la formation des professionnels de la danse ou des personnes qui animent ces ateliers est primordiale pour proposer des espaces sécurs.
Mmh.
À la fois sécurité physique, bien sûr, mmh. mais aussi psychique, émotionnelle.
Psychique,
voilà. Donc il y a un cadre, etc. Donc ça c'est le premier volet, la transmission de la danse. Dans la transmission, on a aussi un volet formation dont je viens de parler aussi, mmh. formation des professionnels de la danse qui veulent enseigner à leur tour la danse adaptée, inclusive. Et
que vous pouvez trouver sur les sites de Mosaïque.
Tout à fait. Le deuxième volet qui est un point très important aussi, c'est la création. Création, diffusion de spectacles professionnels de la compagnie pro.
Qui est une compagnie pro.
Il y a une compagnie professionnelle, voilà, qui regroupe des danseurs avec ou sans handicap, mm-hmm. avec ou sans diversité.
Dont tu es la directrice.
Dont je suis la directrice, oui.
Okay.
Et là, pour ce... Je ne sais pas quand est-ce va passer l'émission.
Fin octobre.
Ah bon, dommage, parce qu'on joue cette semaine, jeudi.
Pas. Tu ne fais pas de l'actualité, justement, pour ça, ou c'est...
Okay.
C'est diffusé après, ouais.
Okay.
Et la troisième, ça serait la valorisation, que c'est celle que j'avais là, la question.
Oui, alors valoriser ces artistes-là, pour nous, c'est important, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace de visibilité pour eux, encore mm-hmm. en France.
Voilà.
La France est encore très en retard par rapport à beaucoup d'autres pays,
beaucoup d'autres,
en matière d'accessibilité en général, mais aussi d'accessibilité culturelle, même si les choses avancent, il ne faut pas être...
Oui.
Négatif, il y a aussi des choses qui avancent. Donc c'est précieux, mais il ne faut pas lâcher, il
non.
faut continuer. Et c'est un vrai combat, l'accessibilité. Donc la valorisation, c'est notamment 2 temps forts. Le festival Nos Limites, qui a lieu une fois tous les 2 ans.
C'était la 4e édition, c'est
on va, ouais, voilà, là on va commencer à préparer la 4e édition.
Ah non, c'est l'année prochaine. Okay.
Voilà, qui aura lieu en... mai-juin 2026.
Mai-juin 2026.
Et qui est un festival autour de la danse et des différences. Et ensuite, une année sur deux, on propose le projet Core Institute, qui est la danse inclusive en espace public.
En espace public.
Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort pour nous.
Oui.
Parce que le festival existe depuis plus longtemps et on s'est rendu compte qu'au final, les personnes qui venaient dans les théâtres ont programmé différentes compagnies. On travaille beaucoup aussi avec des compagnies au niveau de l'Europe, compagnies espagnoles, des compagnies...
Oui, j'ai vu qu'il y avait une danseuse espagnole.
Tout
avec,
à fait. Là, il y avait Layla White sur le dernier Core Institute. Mais on a aussi Maëlys Arabit, alors qui travaille avec une compagnie espagnole,
okay,
quand on l'a programmée à Montpellier.
C'est vrai que Maëlys, elle parle aussi un peu espagnol. Ouais.
Elle parle plus qu'un peu, elle parle très bien espagnol.
Si, je me souviens qu'elle m'en avait un peu parlé espagnol.
Et on a un lien fort aussi avec, avec toute l'Europe, où il y a beaucoup de compagnies aussi qui se développent. Enfin, beaucoup, non. Il y a des compagnies, et c'est important de se fédérer. Et Core Institute, c'est vraiment important, parce que l'espace public, c'est l'espace du vivre ensemble. Et comme cet espace n'est pas toujours donné, longtemps, le handicap a été caché.
Oui.
Et c'est important aussi.
C'est politique de le
c'est
révéler.
C'est très politique, c'est très... on est vraiment dans quelque chose aussi d'engagé au niveau social, sociétal, artistique, politique.
Avec une dernière respiration, Patricia, je dois quitter parce que la radio, c'est un temps précieux, mais j'espère que tu reviendras nous parler un peu plus, toi qui es si en capacité de nous partager des expériences, des anecdotes sur cette danse qui est très importante à mon regard et à regard des spécialistes, d'inclure tout type de corps en dehors des courses académiques et toute cette injonction qu'on fait au corps. Je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission des Mons en Chaussures et je vous souhaite des beaux mouvements dans cette semaine.
Alors tu veux faire danseur?
And push and turn and people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Précisez.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit! On se tourne vers le miroir, allez!